Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de parler aujourd'hui des relations possibles entre le cerveau humain et les mathématiques. J'ai rajouté « voire nécessaire » dans mon titre en préparant cet exposé, car en le préparant, j'étais de plus en plus convaincu de la nécessité d'utiliser les dites mathématiques pour comprendre ce système dont la complexité, si cette phrase a un sens, est au moins comparable à la complexité de notre univers dont Jean-Loup Puget nous a parlé il y a quelques minutes. Donc mon exposé sera en trois parties. La première, je parlerai d'un projet amiral, flagship en anglais, qui vient d'être lancé au niveau européen sur la modélisation du cerveau et ses applications. Et puis, à partir de quelques exemples puisés de ce projet amiral, je poserai deux types de questions. Comment traiter les images des cerveaux qui devront être acquises dans ce projet? Et puis, ensuite, essayer de comprendre l'émergence de phénomènes du type qu'est-ce que la conscience à partir des activités neuronales. Bien entendu, je ne répondrai à aucune de ces questions de manière définitive. Elles sont beaucoup trop complexes, mais j'espère stimuler votre curiosité. Donc, je commence par le projet amiral. Ce projet s'intitule en anglais Human Brain Project, le projet du cerveau humain. C'est un projet qui, normalement, est financé sur 10 ans et dont l'un des buts avoués, c'est de simuler sur informatique, et je préciserai un tout petit peu ce dont il s'agit ici, un cerveau humain. Au travers de la création à l'EPFL de ce qu'on veut bien appeler le CERN des neurosciences, donc le nœud de ce projet est à l'EPFL. Donc sur la droite de l'écran, vous voyez un petit peu, de manière très artistique si vous voulez, la structure de ce projet, donc des cubes de connaissances qui s'accumulent, qui se mettent en place les uns par rapport aux autres pour former 6 plateformes expérimentales qui seront mises à la disposition de la communauté scientifique mondiale, en l'occurrence, afin de pouvoir étudier des problèmes, de permettre le développement de la neuroscience future, de la médecine du futur et de la computation, de l'informatique du futur. Très ambitieux programme, qui se propose donc de travailler à un très très grand nombre de niveaux d'analyse, en partant du génome, de l'expression des gènes par les cellules qui composent le système nerveux central. Je ne vais pas détailler tous les niveaux, mais disons que le protéome joue un rôle très important, la vasculation, les synapses, etc., jusqu'au cerveau complet. En regard, se faisant face ici, c'est peut-être un peu difficile pour celles et ceux d'entre vous qui sont loin des écrans. Il y a ici le cerveau de la souris et ici le cerveau humain. Donc les scientifiques qui font partie de HPP ont proposé de mettre en relation autant que possible des études sur la souris et des études sur les primates et l'humain, dont on pourra discuter peut-être dans la période de discussion. Les échelles multi-échelles, le projet est naturellement un projet multi-échelles, donc vous avez 3 colonnes ici qui représentent les échelles de temps, du mètre jusqu'au nanomètre, donc qui représentent les différents niveaux auxquels on s'intéresse dans l'étude du système nerveux central. Le neurone, les ensembles de neurones, les zones cérébrales, le cerveau complet, puis les comportements. Les échelles de temps allant de la picoseconde jusqu'à plusieurs années, où vous voyez cette main, une personne un peu âgée qui serre une main d'une personne beaucoup plus jeune. Donc là, il y a vraiment un problème, une difficulté énorme d'essayer de concevoir, de comprendre la façon dont ces différentes échelles de temps, j'ai oublié l'apprentissage qui se situe quelque part par là au niveau synaptique et puis à des niveaux plus élevés, donc de comprendre comment ces différentes échelles de temps s'enchevêtrent et participent à la formation de ces comportements intelligents. Et puis il y a une troisième colonne ici qui est la colonne des énergies, qui est une colonne aussi très importante, car le cerveau humain dont nous sommes tous les témoins qu'il fonctionne à peu près correctement, du moins jusqu'à un certain âge, malheureusement, utilisent très très peu d'énergie. On parle de quelques dizaines de femtojoules, alors que l'énergie nécessaire pour les grands calculateurs actuels est de l'ordre, on parle du joule et évidemment de milliers de joules. Donc ces échelles et l'étude de ces échelles, de leur intrication, est au centre de ce projet. Alors, il est impossible, bien entendu, de lire en détail cette planche, mais simplement pour mettre en évidence les relations très étroites qui existent entre les 6 différentes plateformes qui vont être développées et les 3 grandes applications que je montrais tout au début, la neuroscience future, la médecine du futur et l'informatique du futur, si vous voulez. Alors, je vais me concentrer sur d'abord le calcul des choses qui me sont plus proches personnellement, le calcul de haute performance. Donc l'un des objectifs avoués du projet, c'est de passer au calcul exascale. Alors exascale, ça veut dire beaucoup de choses, mais en particulier une énorme capacité de calcul. Alors l'unité de calcul, on peut la mesurer en FLOP, Floating Point Operation per Second, des opérations de calcul flottant par seconde. Donc là, on parle de 10 puissance 18. Alors l'exascale est à la pétascale, ou l'exaflop est au pétaflop, ce que le teraflop est au gigaflop. En gros, il y a 10 puissance 3 quand on passe de l'un à l'autre. Il y a un facteur 1000. Donc aujourd'hui, on est à quelques vingtaines de pétaflops, et là, on veut vraiment aller au-delà. Donc ça, c'est la première idée, très très grosse puissance de calcul. Seconde idée, deuxième idée, une accélération neuromorphique. Alors ça veut dire quoi, accélération neuromorphique? C'est-à-dire qu'une partie de cette architecture informatique sera directement inspirée des structures du cerveau, de manière peut-être analogique. Alors il y aura des mémoires hiérarchiques, il y aura des entrées-sorties extrêmement rapides, et tout ceci va se faire dans le cadre de PRACE, c'est-à-dire, comme vous pouvez le lire, le Partnership for Advanced Computing in Europe. Sur la partie droite, voyez les objectifs. Donc, sur l'axe vertical, le nombre de neurones qui peuvent être simulés. Alors, ces neurones dans le cerveau humain, c'est de l'ordre de 10 puissance 11, sans compter, bien entendu, les connexions synaptiques. Et l'axe horizontal mesure le temps réel. Donc le 1, le temps réel, échelle cerveau, il est là. Là, c'est plus lent, là, c'est plus rapide. Donc la courbe en pointillé jaune est celle que s'est fixé le projet HPP pour des neurones simples. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, ni de vous ennuyer avec ces détails, mais disons que ce sont des neurones qui sont réduits à un point, donc pas très réalistes, comme vous le pensez bien. Les neurones plus réalistes sont relégués un petit peu plus bas. C'est la courbe jaune en trait continu que je suis ici. Donc projet très ambitieux au niveau de la capacité de calcul, afin de réaliser donc une partie de ce qu'ils appellent, ce que nous appelons, puisque je fais partie de ce projet, la médecine du futur. Alors disons, ce qui est important pour moi ici, c'est pour vous peut-être, c'est le fait que sont disponibles dans cette boucle de simulation des modèles numériques de cerveau malade ici, sain ici également. Donc ces modèles étant réalisés à des échelles de temps et d'espace très différentes, comme je l'indiquais au début de mon exposé. Et donc l'une des idées force du projet, c'est d'accélérer et de faciliter l'expérimentation pour la création de produits pharmaceutiques. Donc l'idée, c'est de simuler, en utilisant une des idées, bien entendu, c'est en utilisant ces modèles de cerveau à différentes échelles, de simuler la création et l'utilisation de médicaments, en espérant avoir des meilleurs médicaments et les préparer de manière plus rapide, les obtenir de manière plus rapide. Alors j'en viens au sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rôle de la théorie dans cette grande affaire où on nous présente finalement les progrès en médecine, par exemple, comme une conséquence naturelle du progrès technologique. Donc je ne vais pas détailler ce diagramme encore, mais je voudrais mentionner 4 points qui sont très importants. Le pilotage de ce volet théorique est français. Le pilote s'appelle Alain Destec, c'est un chercheur CNRS qui travaille à Gif-sur-Yvette. à l'Institut Fessard, les mathématiques sont complètement sous-représentées dans le projet. Le budget de la théorie est extrêmement faible. Les mathématiciens n'ont pas besoin, n'ont besoin que d'un crayon. Les informaticiens, l'informatique ne coûte pas cher. Donc, on ne va pas vous donner d'argent. Néanmoins, il est prévu quelque chose de, je crois, très intéressant, la création d'un institut de neurosciences théoriques à Paris qui permettra d'abriter un certain nombre de post-doctorants travaillant sur le projet. Voilà, donc j'ai présenté très rapidement le projet Amiral, HBP. Et maintenant, je vais prendre deux exemples plus concrets, plus précis, des questions qu'on va se poser dans HBP. Donc, vous avez vu sur l'une des diapos précédentes qu'on allait mettre sur informatique des modèles de cerveau. Donc, ces modèles, on va les obtenir à l'aide d'imagerie du cerveau, l'imagerie cérébrale. Et comment allons-nous traiter ces images? Comment allons-nous en extraire l'information nécessaire pour construire ces modèles permettant de mieux comprendre la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, etc. Alors, je commence par un exemple très simple sur la rétine, la vascularisation rétinienne. Donc, vous avez ici une image de fond de l'œil avec la vascularisation. Et donc, le petit rectangle jaune ici est augmenté et grossi à droite ici. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre la structure du réseau vasculaire de cette rétine saine. Et en particulier, pour les gens qui s'intéressent à l'analyse d'image, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ces jonctions, où la topologie de l'image est un petit peu délicate à comprendre et à analyser. Et en particulier de ne pas se tromper sur l'appartenance de telle ou telle fibre à telle ou telle veine. Alors ça a l'air très simple quand j'en parle comme ça, mais c'est en fait très compliqué. Vous avez en dessous un résultat d'identification du réseau vasculaire, où le vert, disons pour simplifier, le vert c'est bon, ça a marché. Et puis vous avez à droite le même résultat mais obtenu sur un fond de l'œil pris chez un patient diabétique. Et là, vous voyez que les résultats sont beaucoup moins bons. Donc, il y a des problèmes, et ces problèmes peuvent être résolus en grande partie grâce aux mathématiques. Et là, entre sur scène un mathématicien dont le nom est Bernard Riemann, mathématicien allemand, mort trop jeune, et dont les idées sont sous-jacentes à la résolution du problème précédent. Donc, j'ai représenté ici un croisement, vous pouvez voir ça comme un croisement de trois veines, vasculature. Et donc vous voyez que pour un algorithme myope, trouver qu'il y a effectivement possiblement trois veines qui se croisent ici, c'est assez délicat. Et l'idée essentielle ici, c'est de rajouter une troisième coordonnée. En plus des coordonnées x et y dans le plan, on rajoute la coordonnée θ d'angle qui en fait vous donne l'orientation en chaque point du contour dans l'image. Et donc, une fois qu'on représente les données dans ce nouvel espace de dimension plus grande, eh bien, un miracle se produit. Les trois structures sont séparées. Et très profondément derrière ce miracle apparent, il y a quelque chose qui s'appelle la géométrie sous-riemannienne, donc vient de Riemann. Sous-riemannienne parce que ce qui définit la distance est un petit peu dégénéré dans certaines directions, et vous voyez sur l'image de droite, ici, que les deux veines, disons, la rouge et la bleue, sont bien séparées, et donc l'utilisation de la technique mathématique complétée par sa réalisation informatique permettent de bien extraire l'information de connectivité de l'image. Alors, derrière tout ça, il y a quelque chose qui s'appelle une structure de contact, avec des formes différentielles de degré 1. Et donc, tout ça se passe en géométrie sous-riemannienne, avec des structures de contact. Et les mathématiques et la géométrie jouent un rôle fondamental. Alors, ce qui est très curieux, c'est que sur cette diapo, j'essaie de vous montrer que le cerveau humain, autant qu'on puisse le voir, le dire, fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire, ici, vous avez une représentation d'artiste de ce qu'on appelle l'aire V1. L'aire V1, c'est la première grande aire visuelle. Et vous voyez ici des petits bâtonnets dont la direction change. Okay ? Donc ça, c'est l'éclatement qu'on voyait sur la diapo précédente, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus d'un point dans la rétine, qui se projette ici dans le cortex visuel, une représentation de toutes les orientations. C'est l'éclatement que je vous montrais tout à l'heure, la nouvelle coordonnée. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi ça, sur la droite, qui montre, alors de manière peut-être un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais là encore, vous avez une représentation colorée des orientations. Disons, regardons, le vert ici correspond à l'orientation qui est présente dans cette image. Et les points noirs montrent que les neurones de cette aire de V1 qui sont sensibles à cette orientation, eh bien, se communiquent entre eux de manière privilégiée. Et donc ça, c'est une implémentation neurobiologique de la structure de contact dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons en France Jean Petitot, Alessandro Sarti à l'IHESS, et Giovanna Citti à Bologne, mathématicienne, qui étudient de manière tout à fait brillante ce genre de phénomène et permettent de comprendre et de faire avancer la géométrie sourimanienne, sous-jacente, si j'ose dire, à ces phénomènes. Un deuxième exemple, toujours dans l'imagerie, c'est la planification opératoire. Donc je suis toujours un petit peu dans les applications médicales. Alors, quel est le problème ? Alors, le problème, c'est qu'on utilise une autre modalité d'imagerie, l'imagerie de diffusion, dont l'un des co-inventeurs fait partie de notre compagnie, Denis Le Bihan. Donc, ça produit des données qui sont représentées ici par ces ellipsoïdes. Et donc, à partir de ces données un peu disséminées, si vous voulez, qui n'ont pas la continuité voulue, on essaie de reconstituer les faisceaux de fibres nerveuses qui relient une aire à une autre. D'accord ? Et donc le traitement qui permet de passer de ça à ces courbes dans l'espace qui sont les fibres est fondé sur des traitements un peu similaires à ceux que je viens de décrire pour la rétine et qui utilisent de manière fondamentale l'invariance à des transformations géométriques. Donc je continue sur cet exemple. Donc il s'agit de planifier une intervention pour un patient épileptique. Et donc la zone épileptogène se trouve dans une région ennuyeuse, embêtante pour le patient, près de la radiation optique. C'est-à-dire ce sont des axones qui relient l'aire V1, représentée ici en rouge, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'aire de perception visuelle primaire, au corps genouillé latéral, qui est l'une des aires qui est située entre la rétine et cette aire V1. Et donc, il ne s'agit surtout pas d'endommager cette aire. Et donc, le médecin, le chirurgien, a besoin d'une description assez précise des fibres nerveuses. Et donc, là, vous avez ici les résultats en jaune de deux algorithmes différents. Le premier qui donne cette espèce de paquet de nouilles très aléatoire, et le deuxième qui donne, au contraire, un résultat, un paquet de nouilles bien aligné qui respecte beaucoup mieux l'anatomie. Et donc l'algorithme, le bon, utilise des méthodes d'invariance géométrique. Alors là encore, je voudrais expliquer en quelques mots et de manière très superficielle, très élémentaire aussi, les idées mathématiques qui sont sous-jacentes. Donc voilà le diagramme qui préside aux traitements qui ont permis d'obtenir les résultats que je vous ai montrés. Et le monsieur qui est derrière tout ça, c'est Sophus Lee, c'est-à-dire un monsieur qui a étudié les propriétés de groupes qui ont des propriétés de différenciabilité, comme ceux qu'on utilise pour ces traitements. Donc il y a cette première idée, et les groupes de Lee qui sont utilisés sont en fait des produits alors semi-directs pour les spécialistes de l'espace où sont définies les images, le plan ou l'espace, avec le cercle ou la sphère. Et quelle est l'idée fondamentale, fondatrice, qui fait marcher la chose ? Eh bien, au lieu de travailler sur l'image directement, on va travailler sur une image plus grosse. Et qu'est-ce que c'est que cette image plus grosse ? C'est une image qui est en fait construite sur ce groupe de Lie, sur ce produit du plan avec le cercle des orientations. On va traiter l'image, la nouvelle image plus grosse ici, avec l'opérateur phi, qui va permettre d'extraire de l'information, comme dans le cas précédent. Et puis, il se trouve que la transformation qui fait passer de l'image au score d'orientation est inversible. On revient à l'image et on obtient une image traitée, meilleure, plus intéressante pour le clinicien, par exemple. Et donc, là encore, le traitement respecte certaines propriétés d'invariance géométrique Et les outils mathématiques sous-jacents sont des équations différentielles stochastiques sur des groupes de Lie. Donc là, il y a une entrée essentielle des mathématiques dans l'analyse des images du cerveau. Alors, je parlais des idées, je voudrais dire aussi quelques mots des gens qui les développent plus avant et qui développent aussi des programmes qui permettent de les faire marcher. Alors, à l'université de Eindhoven, Bart Erhard-Romeyni, Remco Duitz. Ensuite, il y a beaucoup de gens à l'INRIA, Nicolas Yash, dont j'ai cru entrevoir la présence à ma gauche, Xavier Pennec, l'un de ses collaborateurs, Rachid De Riche, Bertrand Thirion. Donc, tout ça sont des gens de l'INRIA, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Il y a aussi le CEA SHFJ, il y a le Neurospin, donc Denis Le Bihan, dont j'ai parlé tout à l'heure, et un de ses collaborateurs très proches, Jean-François Mangin. Donc il n'y a pas que, mais disons en France, et très proche, ce sont les gens qui font avancer ces idées d'un point de vue théorique et pratique. Je vais aborder mon troisième et dernier sujet. Je crois que je suis dans les temps à peu près. Donc très différent. Représentation parcimonieuse, phénomène émergent, et peut-être un peu plus philosophique. Alors, quelles sont les motivations? Il s'agit, vous l'avez vu dans HBP, dans ma présentation très rapide de HBP, de représenter l'activité neuronale à plusieurs échelles. Donc il est évident qu'à des échelles plus grossières, plus macroscopiques, on n'a pas envie d'avoir des descriptions très fines, et donc on veut des représentations qui soient parcimonieuses. On veut également construire des outils qui permettent de prédire l'apparition de phénomènes. Oui, il faut que je parle plus dans le micro, pardon. Prédire l'apparition de phénomènes neuronaux nouveaux, l'émergence. J'en donnerai quelques exemples dans quelques minutes. On veut aussi, c'est très important, je pense, comprendre le rôle de l'aléatoire. Je suis convaincu que l'aléatoire, ce qu'on appelle le bruit, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre système cérébral, et on le comprend très mal. Donc, comment peut-on appréhender ces phénomènes? Également, mais alors ça c'est plus technologique, je dirais, je ne pense pas que le projet HBP va pouvoir, dans 10 ans, simuler un cerveau humain dans sa grande généralité au canaux ionique près. Et donc je pense qu'il sera nécessaire de modéliser en détail certaines zones et d'autres de manière plus macroscopique. Et donc on a besoin d'avoir des modèles macroscopiques, comme ceux que je vais essayer de développer dans les minutes qui suivent, d'interfacer donc ces modèles macroscopiques à des modèles beaucoup plus détaillés. Donc ça c'est plutôt technologique, informatique. Alors je vais vous donner un exemple des horreurs sur lesquelles des horreurs computationnelles, informatiques sur lesquelles on tombe. Donc je me propose de modéliser avec vous V1, l'ère de la vision, dont j'ai parlé plusieurs fois. Donc en gros, vous avez 40 millions de neurones là-dedans, très gros. Hein. Donc l'idée première consiste à écrire pour chaque neurone les équations qui décrivent sa dynamique. Okay, donc ça fait 40 millions d'équations. Vous allez ensuite inclure les connexions synaptiques, donc ça fait ceci, 10 puissance 11, c'est 10 puissance 4 multiplié par 10 puissance 7. Et voilà, vous obtenez ça. Alors, il n'est pas question de vous demander de comprendre ou même d'analyser ces équations, mais pour un neurone, c'est ce que vous obtenez, et vous l'obtenez 10 millions de fois. Alors, simplement, ce qu'il faut retenir de ce dessin-là, qui est en fait trois équations, c'est qu'elles sont stochastiques, il y a du bruit, et puis il y a des connexions synaptiques, c'est ici. C'est ici que ça se passe, la relation entre le neurone et ses voisins. Donc, même avec de l'hexaflop, on n'arrivera pas à simuler ceci en détail, surtout que là, je n'ai même pas la structure spatiale de ces neurones. Ce sont des neurones points, alors que les neurones, ils ont une forme absolument magnifique, mais qui, évidemment, demandent encore plus d'équations pour les représenter. Donc, quelles sont les pistes pour sortir de ce dilemme qui, à mon avis, est complètement inévitable? La technologie ne nous sauvera pas, là. Donc, les pistes, c'est notamment... physiciens, je pense, seront d'accord avec ça, il faut développer une neuroscience statistique. Et donc, on se tourne vers un célèbre physicien autrichien, Ludwig Boltzmann, qui est l'inventeur de la mécanique statistique, qui, comme vous le savez, permet d'expliquer, de prédire à partir des propriétés des atomes, des molécules, donc des propriétés, je dirais, microscopiques, des propriétés visibles, macroscopiques, mésoscopiques de la matière, la viscosité, la conductivité thermique, la pression, etc. Donc c'est ça l'idée. Alors, j'ai fait quelques bandes dessinées qui essaient d'expliquer en 3 ou 4 bandes dessinées, planches, qu'est-ce que ça peut être que cette neuroscience statistique. Donc vous avez à droite Ludwig Boltzmann qui pense à plein d'atomes et qui, à partir de ces phénomènes microscopiques, à l'aide des techniques mathématiques qu'il a développées, permet de prédire ce que c'est que la pression, la conductivité, etc. Et puis vous avez à sa gauche quelqu'un de très différent, Santiago Ramón y Cajal, qui est un grand histologiste espagnol qui a obtenu en 1906, si mes souvenirs sont exacts, le prix Nobel de médecine avec Golgi, qui avait inventé, comme vous le savez, la méthode de coloration argentique des cellules, qui a permis à Cajal, de en observant au microscope des coupes qui ont été où les neurones sont beaucoup plus apparents grâce à la méthode de Golgi, on voit mal ici, mais lui a permis de dessiner. Et c'était un artiste en fait. Je crois que initialement il se destinait au métier de l'art, de dessiner les arborescences de ces neurones. Elles sont absolument superbes. Et donc là, ce sont des neurones individuels que vous voyez dans cette tache jaune-orange. Et donc une des questions qu'on se pose, c'est quels sont les équivalents de la conductivité et de la pression pour les neurosciences statistiques. Et bien, c'est peut-être le concept de fleur, le concept de bonheur. Donc évidemment, ce sont des choses beaucoup plus macroscopiques, mais qui nous touchent dans notre vie de tous les jours, au moins autant que la pression atmosphérique pour prédire le temps. Donc voilà les idées. Et donc je vais faire un tout petit peu de technique en trois planches. Pour vous montrer comment on peut arriver à essayer d'appréhender ce genre de questions. Donc, je vous propose d'imaginer un ensemble de grands N neurones qui sont tous connectés les uns aux autres, un peu comme sur le dessin de Cajal. Et ces neurones satisfont les équations que je vous ai montrées aussi, sans vous demander bien entendu de les comprendre. Mais en résolvant ces équations, on va décrire leur activité conjointe. Et comme il y avait du bruit, j'ai insisté, spécialement sur le fait qu'il y avait du bruit, eh bien, l'activité de ces neurones est probabiliste. Donc on la décrit par une loi de probabilité sur un espace très grand, qui est l'espace des trajectoires possibles. Et l'idée est de décrire comment, dans l'espace de ces activités, l'espace des phases pour les physiciens peut-être, cette loi régit alors une autre chose, qu'on appelle le point moyen, représentant l'ensemble des neurones. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ce que c'est que ce point moyen. Il n'est pas si moyen que ça, comme je vais le montrer. Mais c'est ça l'idée. Donc vous avez vos N neurones. Ils sont décrits par une loi de probabilité qu'on n'ose même pas imaginer tellement elle est définie sur un espace de grande taille. Et puis il y a autre chose qui est ce qu'on appelle la mesure empirique. La mesure empirique qui en fait établit un pont entre l'activité des N neurones décrites dans cet espace des phases à au moins N dimensions, cette loi QN, et puis la probabilité, alors là, voilà la mesure empirique. La mesure empirique, en fait, elle permet de peser entre 0 et 1, un pourcentage, comment l'activité des neurones que vous observez parcelle l'espace des activités. Donc, une mesure, c'est pour mesurer. Donc, si vous appliquez cette mesure à un certain sous-ensemble de l'espace des trajectoires possibles, si la mesure vous répond 0, ça veut dire que vos neurones ne sont jamais là-dedans. Puis, si elle vous répond 80%, c'est qu'ils sont souvent là-dedans. D'accord ? Évidemment, ces pourcentages dépendent de cette grosse loi qui est là-haut, la QN. D'accord ? Et donc l'idée, c'est en fait de résumer, mais ce n'est pas vraiment un résumé, de résumer l'activité de la grosse population de neurones par cette mesure empirique, ou plutôt par le couplage entre cette mesure empirique et la loi de probabilité de l'ensemble des trajectoires. Ce qui est représenté par cette courbe que j'ai voulu en cloche, C'est dire qu'il y a, il y a une probabilité sous-jacente. C'est aléatoire, c'est stochastique. Et c'est fondamental que ça soit ça. Alors, ensuite, on se livre à un exercice de gymnastique mathématique qui est peut-être pas très, comment dirais-je, pas très naturel pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Au lieu de s'intéresser à 10 millions de neurones, on va s'intéresser à un nombre infini de neurones. Donc, on va faire tendre le nombre de neurones vers l'infini. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet de simplifier. On travaille dans le cadre d'une théorie qui s'appelle la théorie des grandes déviations, qui est un domaine mathématique très en explosion. Et on peut, dans certains cas, démontrer que la mesure empirique dont je vous ai parlé sur la diapo précédente, eh bien, tend vers une certaine limite, et une probabilité limite, quand le nombre de neurones tend vers l'infini. Et cette probabilité limite, quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients ? Bien, ses avantages, c'est qu'elle décrit le réseau de neurones à une autre échelle, puisque j'ai pris une infinité de neurones. Donc ça peut être une échelle méso ou macroscopique. Donc on a changé d'échelle, on a gagné quelque part. Elle décrit des propriétés émergentes. Alors pourquoi décrit-elle des propriétés émergentes ? Parce que la loi qu'elle décrit n'est pas la loi d'un neurone individuel, pas du tout. Si vous essayez d'exprimer la dynamique sous-jacente à la loi limite, c'est pas la dynamique d'un neurone individuel, c'est autre chose. Pardon, c'est autre chose. Donc on a là peut-être une possibilité de description des propriétés émergentes. Ça, c'est technique. La convergence est rapide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, si vous utilisez la loi limite pour représenter votre ensemble fini de neurones, eh bien, c'est pas mal, parce que, en fait, pour n grand, vous êtes très proche de cette limite. Là encore, c'est un peu technique. La convergence a lieu en loi et presque sûrement. Alors, en loi, c'est pas très intéressant. Pourquoi c'est pas très intéressant ? Parce que ça veut dire que, pour comprendre ce qui se passe, il faut faire la moyenne sur tous les réseaux possibles. Les réseaux possibles, vous les avez pas. Par contre, la convergence presque sûre vous dit que si vous tirez un réseau au hasard, une réalisation, eh bien, ce réseau, la loi de ce réseau va être très proche, dans un certain sens, presque sûrement, avec probabilité 1, de la loi limite. Donc ça, c'est une propriété. Alors, les physiciens appellent ça parfois « quenched results », bon, presque sûr. Alors, il y a beaucoup de gens qui participent à cette aventure. J'en ai cité un certain nombre. Oui, j'ai fait une erreur de frappe, le backslash BF est mal passé. En mathématiques, alors il y a des gens qui sont ici, d'autres qui ne le sont pas, enfin membres d'un... Mais disons, pour les théories des grandes déviations, Benarous et Guyonnet sont certainement, et Znitman qui est à Zurich, sont certainement des gens dont il fallait que je parle pour l'influence qu'ils ont eue sur le domaine et qu'ils continuent d'avoir. Michel Talagrand, qui fait partie de notre compagnie également. Les gens qui sont plus en neurosciences, dont Pierre Buzer, que je crois, j'ai le plaisir d'avoir la présence ici, Jean-Pierre Changeux, membre de notre compagnie, Yves Fregnac, qui est directeur de l'unité de neurosciences intégratives et computationnelles à GIF, Henri Corne, dont j'ai cru le voir passer tout à l'heure, Alain Fourchiante, c'est Antoine Triller, qui travaille sur le développement du cerveau, la synapse. Donc, toutes ces choses-là sont très liées à ce que je viens de raconter. Mais il y a aussi la physique statistique, vous en êtes rendu compte. J'ai pris l'exemple de Boltzmann, mais il y a des gens beaucoup plus contemporains, si j'ose dire. Je crois que c'est Lucette Cugliandolo, qui est à l'École normale supérieure, et à Paris 7. Bernard Derrida, Marc Mézard, que nous connaissons bien, Gérard Toulouse, qui est aussi un membre de notre compagnie, et puis ce physicien théoricien israélien, Chaim Sompolinski, qui a fait des choses tout à fait étonnantes sur les vers de spin et sur les réseaux de neurones qui ne sont pas toujours très différents. Pour les sciences cognitives, Alain Berthoz, Jean-Pierre Changeux et Stanislas Dehaene. Les sciences de l'information, Claude Béroux, un autre confrère, qui vient de faire sortir un livre tout à fait passionnant sur petites mathématiques pour le cerveau, très simple du point de vue mathématique, je pense qu'il va avoir un gros impact sur la conception de la façon dont travaille le cerveau. Et enfin, les sciences médicales, j'ai parlé beaucoup de médecine, Yves Agide, Étienne-Émile Beaulieu, qui parlait hier au Théâtre de l'Odéon de problèmes passionnants qui sont liés à la maladie d'Alzheimer et au fonctionnement, au dysfonctionnement des neurones, Ben Abid, Denis Le Bihan et José-Alain Assael pour les problèmes liés à la rétine. Donc, J'en suis presque à ma conclusion, et c'est, je pense, attendu. Donc, malgré les résultats obtenus, le but est encore très lointain, c'est-à-dire le but pour les neurosciences statistiques de comprendre l'émergence de concepts, de sémantique, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que le concept de fleur? Qu'est-ce que c'est que le concept de bonheur à partir des activités des neurones? Pour l'instant, les descriptions qui sont obtenues sont assez arides et assez éloignées, apparemment, d'une fleur ou du bonheur, puisque je vous ai parlé de la mesure empirique, de sa convergence et la caractérisation de la loi limite. C'est une loi non markovienne, gaussienne, qui ne nous apprend encore pas grand-chose sur l'idée de bonheur, si ce n'est que c'est un bonheur que de découvrir son existence. Donc pour conclure, comprendre les phénomènes qui font fonctionner et dysfonctionner le cerveau, c'est évidemment une demande sociétale indéniable. J'en ai encore eu la preuve hier soir au théâtre de l'Odéon, du rond-point. Alors, de mon point de vue, HBP, alors je vous ai parlé de HBP, mais il y a un autre projet concurrent, évidemment, aux États-Unis, qui s'appelle BAM, président Obama. BAM, ça veut dire, je crois, Brain Activity Mapping, qui est orienté, c'est aussi un énorme projet, concurrent de HBP, évidemment. Et à mon avis, ces projets promettent trop. Et puisqu'ils promettent trop, ils risquent de décevoir, comme l'intelligence artificielle a déçu les gens dans les années 70. L'intelligence artificielle n'existe plus. Elle a été remplacée par le machine learning, l'apprentissage machine, avec des bases mathématiques beaucoup plus solides. Donc là, il y a un risque auquel il faut prêter grande attention. Alors là, peut-être je me suis laissé un peu emporter, mais la puissance aveugle de la technologie ne suffira pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de construire des calculateurs qui ont une puissance d'exaflop et des terabits par seconde de capacité de circulation d'informations. Ça ne suffira malgré tout pas, si elle n'est pas guidée, cette puissance, par une recherche de fondements théoriques, au sens général, et mathématiques en particulier. Et ce que je propose, et c'est un peu ma contribution aujourd'hui, le développement d'une neuroscience statistique, au sens de la mécanique statistique, pas au sens de faire des statistiques sur les données issues du cerveau. Et je crois que c'est la fin de ma conférence. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous ouvrons la discussion, les questions.